Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très ravie de pouvoir partager avec vous mon expérience de recherche et à la suite effectivement des cours que j'ai suivis avec Milan. Et en fait, je suis assistante doctorante à l'Université de Genève en littérature moderne et contemporaine. Et spécifiquement, mon travail porte sur l'œuvre de fiction d'un auteur qui s'appelle Italo Calvino, qui est très importante dans la tradition littéraire italienne. Et en particulier, moi, j'étudie un phénomène qu'on a baptisé texte dubitatif. Or, juste pour vous donner une définition qui est un peu vague, mais je vais vous donner aussi des exemples un peu plus concrets pour la rendre plus facile à comprendre. En tout cas, on peut dire que le texte dubitatif, c'est un phénomène qui fend la progression du récit sur la remise en cause de ce qui a été dit précédemment dans la narration. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment essayer d'étudier ce phénomène à l'intérieur d'une œuvre littéraire et qui est à peu près composée par 200 récits et une dizaine de romans. Et j'ai lu toute l'œuvre de fiction et essayé de comprendre comment ce phénomène se comportait à l'intérieur de l'œuvre. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça pouvait avoir un rapport avec un texte argumentatif et notamment la production des essais de l'auteur. Parce que Italo Calvino était un intellectuel très important dans 1900 et il a produit énormément d'essais au cours de sa carrière. Et il y a eu une publication récemment en 2021 de Sergio Bortola et Chiara De Caprio qui identifiaient des formes de perplexité, des mises en doute constantes dans l'œuvre des essais. Et je me suis un peu interrogée sur qu'est-ce que ça pouvait être, quel type de relation pouvait y avoir entre mon phénomène narratif et la présence de ces formes de perplexité dans les essais. Et j'ai décidé d'écrire un projet en utilisant des techniques qui vient des humanités numériques pour enquêter cette relation possible. Et plus spécifiquement, ce que j'ai fait, c'était de raffiner un algorithme BERT pour créer un modèle qui était capable de détecter automatiquement le texte dubitatif dans les essais. Et pour réaliser ce projet, j'ai passé l'année dernière le semestre d'automne de 2021, du coup, à Anvers, sous la supervision de Mike Kessmond, du professeur Mike Kessmond, qui m'a suivi avec toute son équipe, qui m'a aidé à concrétiser mon idée de recherche. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est effectivement mon objet de recherche et pourquoi c'est si difficile de le opérationnaliser. Et après, je vais vous montrer comment j'ai concrètement préparé mes données afin de pouvoir entraîner mon algorithme. Et je ne vais pas trop m'attarder sur les résultats, même si j'en ai déjà, parce que je pense que ce qui est intéressant dans ces séminaires, c'est plutôt voir comment j'ai réussi à transformer un concept qui relève vraiment de la critique littéraire, ou en tout cas qui fait partie sur lequel mon doctorat est complètement dédié, et essayer de le traiter numériquement et de trouver des repères en façon de pouvoir le transformer. Et aussi de vous raconter les difficultés. Parce que souvent, quand on écrit un article, on dirait que tout a été parfait et qu'il n'y a eu qu'un chemin et que c'était parfait. Mais même en fait, moi, quand j'ai écrit mon projet pour aller à Anvers, j'avais l'intention d'appliquer des techniques de stylométrie parce que Mike Kessmond est connu pour être un très grand... il est un expert en stylométrie, du coup, c'est pour ça que je me suis tournée vers lui. Et c'est en parlant avec lui qu'il m'a proposé d'autres techniques, d'autres méthodes de traitement de texte. Et je me suis rendu compte, et je lui ai fait aussi beaucoup de confiance, en me penchant sur une autre technique qui a présenté du coup d'autres types de difficultés auxquelles j'étais plus ou moins préparée parce qu'au final j'avais un petit peu codé dans les séminaires mais très vite quoi, donc c'était intéressant. Voilà, donc on passe d'abord sur le texte dubitatif puis on fait la partie un peu plus pratique. Donc comme vous l'avez pu comprendre déjà par ma définition, Il s'agit d'une catégorie qui est assez ambiguë, très difficile à écrire, à détecter dans le texte. Or, on a effectivement des caractéristiques de type linguistique qui le rendent un peu plus facile à détecter, notamment la présence d'une modalité épistémique, du coup des hypothèses, des parcours conditionnels, vraiment des traces concrètes qu'on peut retrouver dans le texte, qu'on peut facilement et reconnaître en tant que lecteur ou lectrice. Et du coup, que c'est un peu plus facile à donner comme information à un éventuel algorithme pour pouvoir effectivement détecter les passages dubitatifs. Après, il y a aussi tout ce qui est les connecteurs argumentatifs. Et finalement, le texte dubitatif passe aussi par une utilisation, un emploi de la ponctuation assez particulière, notamment la présence des parenthèses, entre autres, parce que ça crée graphiquement un espace dans le texte qui est autre. Et du coup, il y a effectivement deux discours narratifs qui vont en contradiction l'un avec l'autre, et la parenthèse il peut être effectivement un véhicule pour créer une mise en perspective de ce qui a été dit précédemment. Donc ça, c'était, disons, des caractéristiques qui pour moi sont assez évidentes et qui sont reliées au texte dubitatif, mais pour qu'un passage de texte soit effectivement considéré comme dubitatif, il doit y avoir une autre condition qui est beaucoup plus difficile à opérationnaliser, et c'est que la progression de l'histoire, une partie assez cohérente et assez vaste, doit être fondée sur la déconstruction de son contenu. Donc voilà, enfin, cette deuxième condition, elle est très subjective, très difficile. Ça dépend vraiment de la sensibilité de celui qui lit le texte. Donc, je vous propose juste de passer vite fait sur un exemple, comme ça je vous montre la différence. Ici, on a deux extraits. Je vous ai mis la traduction, on va travailler sur la traduction, je ne vais pas vous lire l'italien, ça suffit, mais en gros, si vous voulez, il y a deux mouvements qui sont décrits, et l'origine des deux mouvements, elle est inconnue dans les deux récits qui ont été publiés dans la même époque. Donc on a dans Come era grande del mare, on a des petites ondulations qui se propagent sous l'eau, peut-être le battement de la queue d'une poisson, peut-être un enfant remplissant seau sur une berge. Et de l'autre côté, sur Paura sul sentiero, on a une bête qui se déplace. Je ne vois absolument pas parce que j'ai vos visages, ce qui est bien, comme ça moi j'ai l'impression de ne pas parler que à mon ordinateur, mais en même temps. Donc une bête se déplace au fond d'une touffe de bruyère, peut-être une lièvre, un lièvre, peut-être un renard, peut-être un allemand couché dans les buissons. Et si vous voulez, là, on n'arrive pas forcément à le voir parce que les deux passages sont isolés. Mais Paura sul sentiero narre vraiment d'un soldat, un partisan, qui traverse une forêt et qui a, dans la nuit, pour ramener un message. Et au bout d'un moment, il a tellement peur qu'il commence à avoir des hallucinations. Et au bout d'un moment, il n'arrive plus du tout à comprendre si ce qui l'entoure, c'est la réalité ou son imagination. Et la progression de la narration se base sur la mise en doute de tout ce qu'il a pu percevoir et qu'il n'arrive pas à comprendre, à évaluer la validité de tout ce qui l'entoure. Tandis que dans l'autre récit, en fait, c'est juste un mouvement sur l'eau et au bout d'un moment, on ne sait pas trop s'il s'agit d'un poisson ou du jeu d'un enfant. Mais c'est très localisé, c'est pas forcément, ça n'impacte pas la progression de la narration. Et le problème, c'était effectivement trouver un moyen, trouver aussi un instrument numérique qui me permettait d'évaluer automatiquement la présence du doute en tenant compte que il y a une composante assez subtile à interpréter dans le complexe. Donc, la base de données que j'ai utilisée pour entraîner mon modèle a été collectée pendant un projet auquel j'ai collaboré, et ça a été un peu mon baptême dans les humanités numériques, qui s'appelle Atlante Calvino. Et pendant ce projet, qui a eu lieu entre 2017 et 2021 sous la direction de Francesca Serra à l'Université de Genève et en collaboration avec le Polytechnique de Milan, on a essayé d'appliquer des techniques de data visualization pour résoudre des problèmes de critique littéraire, et notamment du coup, tout ce qui a été en rapport avec le doute. Et ce que j'ai fait pendant ce projet, c'était de... j'ai lu toute l'œuvre, en fait, et j'ai utilisé un instrument qui a été créé pour nous, au sein du laboratoire de design. Et du coup, si vous voulez, j'ai vraiment lu toute l'œuvre et récolté tous les passages qui me semblaient dubitatifs en leur donnant certaines caractéristiques. Et j'ai créé du coup une base de données qui est composée par environ 5000 lignes de texte. Et les passages de texte, c'est très... Je suis désolée, j'ai un chat. Kiwi. Ça, c'est les joies du confinement qui reviennent. OK. Et qui peuvent être des groupes de mots, des phrases ou des entiers paragraphes. Donc, c'est très hétérogène. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé un projet, c'est-à-dire que pendant la collaboration avec le projet d'Atlantic Albino, on a créé des visualisations, mais on n'a jamais fait des traitements numériques de texte. Et il me semblait intéressant de pouvoir exploiter cette base de données que j'avais créée et récoltée manuellement. Et en plus, c'est assez... Normalement, les bases de données, cette base de données si vaste doit être un peu collectée de façon automatique, tandis que là, effectivement, j'avais lu toute l'œuvre. Donc, c'était intéressant aussi de pouvoir travailler avec un type de données qui, certes, peut être problématique, mais en même temps, très, très intéressant, enfin, très, très fécond comme direction de recherche. Et c'est pour ça, du coup, et ça, j'en sais pas par rapport à votre background, si ça peut être intéressant, tout ça, mais je voulais vous, en tout cas, vous souligner le fait que avant de pouvoir, afin de pouvoir évaluer la performance du modèle et la fiabilité de cette catégorie conceptuelle que sur laquelle se porte mon doctorat, on a dû calculer ce qu'on s'appelle the inter-annotator agreement. Ça veut dire que j'ai demandé à deux collègues d'analyser en utilisant l'écrit du texte dubitatif deux romans en sorte que je puisse confronter leurs analyses avec les miennes et calculer si on était assez d'accord sur les passages qui pouvaient être perçus comme dubitatifs ou pas. Et ça, c'est vraiment un score qui regarde, qui évalue la possibilité de faire migrer cette catégorie pour une autre personne, voire un autre auteur, voilà. Et c'était un très bon indicateur du fait que le texte dubitatif est assez complexe, à partager. On a eu des scores pas horribles, c'était autour de 0,60 qui est assez, enfin, on peut l'accepter, mais en même temps, c'était assez complexe, c'était aussi intéressant de raisonner par rapport au score. Et c'était aussi intéressant parce que en fait on a su tout de suite que tous les scores qu'on aurait pu recevoir de l'entraînement du modèle auraient dû être mis en relation avec cette opacité qui est liée à la catégorie. Deuxièmement, ce qu'il fallait faire concrètement, c'était transformer cette base de données en un format qui puisse être processé par mon modèle. Et spécifiquement, moi, j'ai travaillé avec un format qui s'appelle IOB. Très concrètement, ce qui a été fait, c'est que déjà, moi, j'avais fait quelques... Effectivement, j'avais suivi le séminaire. J'avais jamais plus codé, donc je suis arrivée inverse. J'ai suivi certains cours pour me remettre un peu dans le bain, mais je ne savais vraiment pas comment gérer toute l'histoire. Et je suis vraiment désolée, j'arrive. J'espère que... Voilà. Et du coup, ce qui au bout d'un moment, quand on a détecté la technique pour résoudre mon problème, ce que j'ai fait, c'était suivre un tutoriel vraiment sur Towards Data Science, et j'ai dû vraiment apprendre Je me souviens, ça c'est vraiment un partage sincère. Je me souviens quand j'ai lu l'article pour la première fois, c'est pas un article très long, j'arrivais vraiment pas à comprendre concrètement ce que je devais faire. Du coup, ça a été très intéressant de pouvoir apprendre une technique et suivre vraiment un chemin, un tutoriel en mettant très en perspective tout ce que j'avais pu apprendre auparavant. C'est-à-dire que si on ne sait pas coder certaines fois sur Python, faire certaines choses, ça ne veut pas forcément dire. Enfin, c'est très intéressant après de devoir transformer notre connaissance, le fait de pouvoir faire certaines opérations sur Python, on a pour créer des files qui puissent être après opérationnalisées par un modèle. Et ce qu'il fallait faire, c'était de transformer du coup ma base de données en IOB files, ce qui veut dire concrètement que j'avais un dataset avec que du texte dubitatif, donc que des passages de doute. Et je devais par contre donner au modèle aussi des exemples négatifs, ce qui n'était pas dubitatif. Donc ce qu'on a fait, c'était de calculer pour chaque occurrence de texte dubitatif le contexte avant et après, environ 13 mots, plus extraire des exemples négatifs qui n'étaient pas de l'œuvre de fiction, extraites de façon randomique dans l'œuvre. Après, je vais vous montrer le code, comme ça on va voir un peu plus en détail. Et en gros, ce qui a été fait, c'est que IOB, ça veut dire que O, ça correspond à out. Donc, tous les tokens qui faisaient partie des exemples négatifs et du contexte ont eu un tag out. Et les occurrences dubitatives ont reçu un tag bedout et eatout qui correspond à beginning et à l'intérieur, un in à l'intérieur de l'occurrence. Et pour vous donner une idée, ça c'est un peu la configuration de mes files. C'est-à-dire que j'avais une phrase qui faisait peur, où il y avait le contexte. Donc, les 13 mots qui précédaient l'occurrence. À chaque token, y compris la ponctuation, on a donné un tag. Et j'ai fait ça pour toute ma base de données, toute l'œuvre. Après avoir préparé disons, toutes mes données, on a fine-tuned, parce qu'on n'a pas entraîné, on a affiné un modèle qui était préexistant. Et, ah oui, ça aussi, on a dû en fait créer ce qu'on appelle un test set pour à nouveau évaluer la performance du BERT modèle. Mais ça, peut-être, on en parlera plus tard si quelqu'un est intéressé. Ce qu'on a fait, c'est qu'une fois que j'avais préparé mes données, pour faire du fine-tuning de mon modèle, j'ai dû déjà intervenir sur quel type de modèle je voulais raffiner. Et parce que, en fait, il n'y en a pas que un, il y en a plusieurs pour la langue italienne, qui a été entraînée sur des matériels différents, par exemple des Twitter plutôt que des textes de Wikipédia et tout ça. Du coup, il fallait choisir quel type de modèle je voulais entraîner. Et j'ai utilisé ce site pour décider lequel pouvait être le plus utile. Et concrètement, en réalité, j'en ai essayé plusieurs. J'en ai essayé plusieurs pour voir quel type de résultats j'aurais pu disons, obtenir. Et au final, j'ai choisi les scores donnés comme le plus pertinent Italian BERT XXL. Après, parce que il faut que vous vous disiez qu'à chaque fois qu'on fait un entraînement de modèle, on évalue les scores. Et puis, on revient au point de départ si les scores, comme la plupart du temps arrive, les scores ne sont pas assez bons pour essayer de changer certains paramètres. Un, ça pouvait être le modèle. Des autres paramètres, ça peut être le pourcentage des données, c'est-à-dire que combien d'exemples négatifs je donne au modèle par rapport au doute. Et parce que ça, ça a des immenses répercussions, disons, dans les résultats globaux, parce qu'un modèle va reconnaître du texte dubitatif dans un texte inconnu, dans le pourcentage que je lui ai appris à reconnaître. Donc, pour moi, en tout cas, c'était plus ou moins, j'avais l'intérêt Je pensais que mon phénomène pouvait être présent environ à l'auteur de 20% dans un texte inconnu. Et du coup, il fallait trouver un bon équilibre. Mais ça aussi, c'est des pourcentages que j'ai changé énormément. Et puis, ce qui a été très difficile aussi à modifier, c'est ce qui ont été, enfin, c'est les hyperparamètres. C'est-à-dire que moi, j'utilisais Spacy, qui a un file qui s'appelle config file, à l'intérieur duquel on a toutes les informations que le modèle suit pour concrètement faire l'affinement. Et ce qu'il faut que je vous dise, c'est que tous ces hyperparamètres, la batch size, the weight decay, number of epochs, j'ai essayé de les modifier en allant regarder sur les blogs, sur Stack Overflow, en lisant énormément d'articles qui ne venaient pas forcément d'un milieu que académique, mais qui y a vraiment une approche à la recherche qui est très différente dans ce milieu-là. Moi, je fais de la critique littéraire, du coup, pour moi, il y a des revues qui ont un classement et je me base sur la qualité de l'article, dépend aussi du lieu de publication. Ce n'est pas forcément comme ça qui marche ces genres de milieux, c'est plutôt en allant dépouiller des blogs, en allant dépouiller vraiment des sites. Et il y a vraiment une communauté, d'ailleurs, qui répond. Si on a des questions très précises, il y a des fois, on a été chanceux, on a pu échanger. Et c'est, du coup, c'est une approche, il faut vraiment, poursuivre sa recherche de façon très... très expérimentale et en allant se confronter à chaque fois avec ce qui a été la recherche des autres pour voir s'il y avait des tâches similaires qui peuvent nous aider. Et donc pour en arriver là, concrètement, ce qui a été fait, c'est que, donc pour finir, j'ai eu mon algorithme qui m'a permis d'analyser les essais. Là, je suis en train de retirer les premiers résultats. Mais pour en arriver là, concrètement, ce que j'ai dû faire, c'est écrire énormément de code. Du coup, si vous voulez, l'étape 4, c'est ce que j'ai appelé modèle. C'est vraiment comment j'ai entraîné mon modèle dans un Google Colab pour avoir un processeur plus puissant. Mais avant d'en arriver là, j'ai dû modifier énormément mon dataset. Et ce n'était pas du tout évident. Et ce que j'ai fait pour conclure un petit peu ce vraiment très bref voyage en tout cas quasi une année de recherche, c'est que j'ai créé une sorte de synthèse de ces trois passages-là, c'est-à-dire comment j'ai calculé concrètement, extrait concrètement de mon œuvre le contexte, comment j'ai transformé en IOB file mes données, et après comment j'ai stratifié les données. Donc je vous pose de après maintenant, je vous partage plutôt la page de code que j'ai préparée. Et après, bien évidemment, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, on peut toujours retourner dessus. Voilà. Est-ce que vous voyez? Parfait. Donc, vu que j'ai fait ça il y a, je pense, en tout cas 6 mois, il y a des fortes chances que j'ai pas mal oublié tout ce que j'avais pu réussir à faire. Donc ça aussi, c'est un conseil. Je ne sais pas si vous utilisez souvent du code, mais c'est très intéressant. C'est comme une langue, il faut la pratiquer. Et plus on la pratique, plus on est à l'aise. Donc, c'est ce que, si je peux vous donner 2 conseils, un, c'est de si possible, ne pas faire passer trop de temps entre, disons, un moment de codage et un autre. Et de écrivez tout ce que vous faites. Parce que je vous assure que sur le moment, ça paraît très évident et très clair et assez, voilà, assez intuitif. Mais il suffit d'une semaine et on a oublié complètement ce qu'on a pu faire, quel a été le schéma mental qui nous a amené à créer certaines lignes de code. Donc, documentez énormément tout ce que vous faites avec du commentaire, comme vous voulez vraiment, mais c'est un peu mon conseil en tout cas. Du coup, bah, voilà, je prépare mon environnement et après, celui-ci, c'est mon dataset de base. Et ce qu'il fallait, déjà, un des soucis que j'ai eu, c'était de comprendre quel type de tokenisation il fallait adopter pour que ça puisse être compatible avec Spacey. Et j'ai eu énormément de difficultés à me rendre compte, vu que je ne savais pas trop ce que je faisais au début. J'ai fait énormément d'erreurs dans la préparation de mes données et j'ai perdu énormément de temps parce que, par ignorance, par le fait que, voilà quoi. Donc, ça aussi, c'est un autre conseil, c'est-à-dire que préparez très bien votre matériel. Avant de commencer n'importe quel entraînement, je comprends que c'est un peu l'apice, le climax magnifique enfin, on veut arriver là pour avoir des résultats. Mais après, si les résultats sont horribles parce qu'on a préparé mal notre matériel, c'est encore plus décevant. Tandis qu'il faut peut-être passer un peu plus de temps avant. Et donc, moi, j'avais eu un problème de synchronisation. Donc, j'ai dû retourner un petit peu en arrière. Et ça, c'est vraiment des stats un peu générales sur mon dataset. Et ce que j'ai fait, du coup, j'ai écrit une fonction qui me permettait de extraire automatiquement le contexte de tout mon corpus narratif. Et voilà, maintenant je vous montre mon code, mais je suis certaine que il est pas à l'auteur d'un vrai programmateur, donc faut être clément. Et pour finir, ce que j'obtenais, c'était un nouveau file avec seulement ce qu'on appelle un ID, du coup un identificatif. Qui est beaucoup plus facile, disons, par rapport à un titre qui est long et qui comporte beaucoup plus d'erreurs. Puis, du coup, j'avais le contexte avant et après chaque occurrence avec les numéros de caractères. J'ai évidemment mis aussi le numéro de caractères pour avoir un peu une idée générale. Et ce que je me suis rendu compte au bout d'un moment, c'est qu'il pouvait y avoir de l'overlapping. Du coup, il pouvait y avoir deux occurrences qui étaient assez proches l'un de l'autre et qui s'y superposaient. Et ça pouvait créer un souci dans mon entraînement. Du coup, j'ai dû, et ça aussi, je m'en suis rendu compte après coup, j'ai dû m'en débarrasser pour éviter qu'il puisse y avoir ça. C'est-à-dire qu'un contexte de après, un contexte de avant, de deux occurrences répètent la même partie du texte. Celui-ci, parce que BERT, c'est un modèle assez c'est très sensible à tout ce qui est. C'est un algorithme transformer qui est assez sensible à. Qui travaille bidirectionnellement. Et du coup, il crée des prévisions par rapport à comment la structure syntaxique et aussi enfin, du texte travaille. Et du coup, c'était très important de lui donner le texte, enfin, les données de façon très. Ça ne devait pas créer ce genre de soucis. Ça pouvait. J'ai vu dans les résultats que ça avait clairement impacté, en tout cas, les scores. Et après, ce que j'ai fait, du coup, c'était effectivement transformer toute ma base de données en IOB pour avoir au final un file comme celui-ci, qu'avant j'avais un peu détaillé, si vous voulez. Donc, chaque mot, enfin, chaque token avait un tag. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai stratifié, du coup, les IOB, enfin, mon nouveau file. Parce que BERT travaille avec deux types de données, enfin deux sets de données. Il y a un test, il y a un training set et un validation set. Et du coup, il fallait le donner, disons, équilibrer les deux sets. Et ça a été un peu la stratification que j'ai un peu contrôlée aussi grâce à certains, disons, en regardant un petit peu les pourcentages de présence de type de texte. Et ce qui était aussi difficile, c'est que même si avant j'avais mis 20%, 80%, je ne suis jamais réussi à être si précis que ça parce que je voulais quand même que le modèle puisse analyser de façon compacte les récits. Et ne pas éparpiller mes données. Parce que pour moi, ça, c'était assez important. Donc ça, par exemple, c'était assez... ça a été une composante assez fondamentale. Et moi, j'aimerais être là. Et je vous ai donné, je pense, d'idées de ce que j'ai pu faire. J'espère avoir été assez claire, mais si ce n'est pas le cas, évidemment, je suis là pour pouvoir échanger avec vous et en tout cas, peut-être me focaliser sur ce que peut vous intéresser le plus. Et je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Tu ne l'as pas dit. Les modèles BERT sont des modèles de langage venant de la recrutement robotique de la langue qui permettent de manipuler rapidement en fait, des plongements de texte. C'est-à-dire qu'ils permettent d'envelopper le texte avec beaucoup d'éléments et de l'intégrer dans un ensemble de processus, détecter des mots, savoir la position grammaticale d'un mot, détecter des entités nommées, etc. Donc, c'est des enveloppes en fait, de texte qui sont faciles à manipuler ensuite pour faire d'autres choses, notamment, comme tu l'as fait, de la reconnaissance d'entités nommées ou de la reconnaissance d'entités. Et avec toutes les pipelines qui vont avec et qui sont déployées par notamment la bibliothèque Spacey, qui facilite en fait l'entraînement de modèles d'un certain format pour en faire ensuite un modèle de détection de certaines choses. Et juste, je me permets de dire ça parce que là, il y a des personnes qui n'ont jamais croisé ça. Donc, voilà, on a des modèles qui sont sur l'étagère, qui permettent d'envelopper des textes, qui ont été entraînés par ailleurs, et on peut les utiliser ensuite pour envelopper des textes et mieux détecter certains éléments. On dira. Donc, juste, je voudrais juste finir en revenant à votre projet de recherche. En disant ce que, bah, complètement comment tu as réintégré ça dans ton travail, ou pas réintégré en fait. Une fois que tu as fait ce modèle, qu'est-ce que tu en as fait, quoi. Que, bon, tu ne l'as pas dit, tu as quand même réussi à publier un proceedings sur la base de ce travail-là, et donc tu as réussi à l'aboutir dans le monde académique en tant que tel. Ce n'est pas resté quelque chose d'anecdotique, ça m'a fait quelque chose.
Non, c'est clair, c'est vrai que je suis toujours un peu gênée. Enfin, mais je peux peut-être envoyer dans la chat l'article et tout, où c'est un peu plus détaillé aussi le processus. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai obtenu très fatigué, enfin, après tant de fatigue et de peine, j'ai obtenu ce modèle, je l'ai appliqué, enfin, j'ai étudié, j'ai appliqué ce modèle aux essais de Calvin pour voir quelle partie des essais était reconnue comme dubitatif et quelles pouvaient être les caractéristiques qui amenaient le modèle à reconnaître en tant que dubitatif ces parties de texte-là. Et ce que j'ai découvert, mais là, je suis encore en train de conclure ma thèse, et c'est le dernier chapitre, donc c'est assez un work in progress, mais en général, c'est qu'il y a une composante de figuralité qui est assez importante et dans le texte dubitatif et dans les essais. Et ça, c'était un peu imprévu. C'est-à-dire que tout ce qui est la présence, par exemple, des analogies, des métaphores qui sont assez, qui ont une place clairement dans un modèle narratif, mais qui peuvent être un peu plus problématiques dans une écriture argumentative, et ben ça s'est relié au doute et à cette espèce d'ambiguïté et d'incompréhension qui demande d'éclaircir à travers des comparaisons, des métaphores, mais qui concrètement, même s'ils sont là pour aider à comprendre mieux, au final, j'ai l'impression qu'ils créent des superpositions d'images qui, au final, rentrent en conflit et puis qui ne semblent pas là pour forcément éclaircir, mais pour donner l'idée qu'il y a différents, disons, que le même concept au final peut rentrer dans un prisme et on a la possibilité de voir ces différentes facettes qui sont toutes disons en alternative l'un l'autre et ça c'est par exemple la place qui avait l'analogie dans le doute je m'étais pas aperçu et c'est grâce au modèle que j'ai pu m'en rendre compte. Ça c'est un des aspects que j'ai le plus remarqué et c'est